Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la saison 2024 de First Pitch, le podcast baseball des équipes de TFA. Et comme la semaine dernière, avec cette fois-ci, vous l'aurez remarqué, un son d'une meilleure qualité, je vous retrouve avec Chris Gognaud. Comment tu vas, Chris ?
Salut Charles, salut à tous. Ben, je vais très bien, j'espère qu'on va m'entendre cette fois-ci, ou mieux m'entendre.
On t'entendait, mais c'est vrai que ça sautait un petit peu en termes de connexion. Bref, ça ne vous a pas empêché d'avoir été assez nombreux à l'écouter. Donc déjà, merci pour ce premier podcast de la saison. Aujourd'hui, trois thèmes. On va aborder trois thèmes différents. On va d'abord parler des San Francisco Giants qui se sont un petit peu réveillés un peu sur le tard. Hein. Ils ont débuté leur intersaison un peu calmement, se sont fait doubler sur deux, trois sujets. Et là, ça va un peu mieux. On regardera tout ça. On parlera bien entendu des agents libres qui restent encore sur le marché, à savoir Blake Snell et Jordan Montgomery. Et on essaiera de voir déjà quelles sont les rumeurs qui tournent autour de ces deux joueurs-là. Et à 25 jours de l'opening day, parce qu'il me semble bien que c'est le 29, est-ce que ce n'est pas un peu préjudiciable d'être encore sans équipe à ce moment-là ? Lui, il était agent libre, mais par contre, il a trouvé une équipe assez rapidement, c'est Corbin Burnes. Est-ce que c'était l'élément manquant aux Orioles pour faire une vraie saison complète et pas juste une très bonne saison régulière pour sortir dès le premier tour des playoffs. Le programme est lancé. C'est parti, Chris. On parle des San Francisco Giants qui ont tout récemment ajouté Matt Chapman qui vient des Toronto Blue Jays à leur effectif et qui, du coup, affiche un line-up potentiel pour l'opening day qui est, ma foi, plutôt intéressant. Je vais le rappeler. Lee, Estrada, Wade Jr., Soler, qui est arrivé aussi il y a quelques semaines, Conforto, Chapman, j'arrive jamais à dire son prénom. Ça fait partie des noms qui sont presque imprononçables. Yastrzemski, Bailey et Luciano pour compléter. L'acquisition de Matt Chapman, Chris, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que, pour toi, il va pouvoir apporter à cette équipe des Giants ? Et qu'est-ce que tu penses de cette équipe des Giants aussi, qui se trouve dans une division, la division de ton équipe préférée, et une division qui est assez compliquée quand même.
Oui, c'est d'un côté en American League, la division avec les Yankees. De l'autre côté, en National League, il y a effectivement les Dodgers, les D-backs, les Padres, attention aux Padres, et les Giants. Les Giants qui, depuis que Farhan Zaidi était le GM, directeur des opérations des Dodgers, il y a encore 5 ans, je crois, est parti à San Francisco. Il essaye de monter une équipe comme il a pu le faire à la grande époque quand il était aux Dodgers, avant cette ère de qu'on connaît maintenant. En tous les cas, il a beaucoup plus de mal à le réaliser. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les Giants sont un peu moins hype, mais il y a eu quelques flops. Ils sont souvent dans la course pour pouvoir recruter des top players, mais c'est jamais payé et ils ne sont jamais trop, au final, ceux qui récupèrent les plus gros poissons. On pense à Correa, par exemple, le shortstop, Aaron Judge, qui a grandi en Californie et donc il avait fait un petit tour en se disant « Tiens, je vais peut-être aller aux Giants, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire ?» Et au final, effectivement, l'argent peut peser énormément dans la balance, mais c'est là qu'on voit que ce n'est pas forcément tout. On a aussi appris que Yamamoto était venu aux Dodgers, par exemple, malgré qu'il y ait une offre qui était plus alléchante ailleurs. Donc, mais quand même, ce qu'ils font comme travail est un travail de fond et plutôt intelligent avec des free agents qui vont de franchise en franchise comme ceci, qui peuvent avoir des impacts. Jorge Soler, par exemple, Matt Chapman est un petit peu comme ça. Et on va dire que Matt Chapman apporte ce qui manquait, on va dire, au niveau de l'infield, donc en troisième base, de la régularité et surtout avec des jeunes lanceurs comme ils ont. Ils n'ont pas des aces de dingue comme un Justin Verlander, Mark Scherzer, etc. Des vétérans, ils ont des jeunes lanceurs qui sont très bons avec leur ace Alex Cobb, pardon. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Des fois, je peux avoir des petites sautes
non,
de mémoire hein, sur les centaines de joueurs qu'il peut y avoir dans toutes les équipes. Des fois, on se trompe. Mais Alex Cobb, qui est vraiment, vraiment, vraiment un super lanceur. Voilà, je pense qu'il apporte de la profondeur à la fois en infield, ce qu'il recherchait, et c'est un joueur offensif avec voilà, un petit plus. C'est pas un plus, c'est pas le top player offensif, mais il a pu avoir des saisons excellentes. En tous les cas, c'est un bon ajout et ça peut finaliser ce roster. Et c'est, je crois, Farhan Zaidi qui a dit aujourd'hui, on est plus dans un mode in-season plutôt que d'essayer d'aller chercher une autre signature. Bien que la rumeur parlait aussi de Blake Snell également. Éventuellement pouvoir évidemment retomber. Voilà.
On en reparlera, effectivement. Pour Chapman, tu as complètement raison. Alors, en plus d'être un très bon défenseur, il a gagné plusieurs gants d'or et même gants de platine. Il a la capacité, parce qu'il a le bras suffisamment puissant aussi, pour pouvoir jouer shortstop. Il a joué un match en carrière, ça a juste été évoqué, parce que la situation en shortstop chez les Giants, c'est pas qu'elle est précaire, mais elle mériterait aussi d'avoir peut-être une addition supplémentaire. Ils ont fait venir pour le spring training en invitation Nick Ahmed, mais ils ont aussi Luciano et Schmidt qui sont deux jeunes joueurs pour le moment. Et le fait d'avoir Chapman en troisième base va peut-être donner aussi la possibilité à ces trois joueurs-là, surtout si Nick Ahmed arrive à retrouver un niveau qu'il avait pu afficher il y a quelques saisons de ça. Quelque chose d'intéressant aussi en shortstop, parce que Chapman, c'est ça, c'est vraiment le côté défensif, parce qu'en attaque, tu l'as dit, c'est pas un gros plus. Oui, c'est un frappeur qui frappe relativement fort. Il a une vitesse de sortie de batte à 93,4 miles à l'heure et un taux de hard hit de 56,4%, ce qui le place dans le top 2% de la MLB. Donc, on a quand même quelqu'un qui est capable de frapper, qui est capable de frapper fort, de mettre la balle en jeu, chose que les Giants n'avaient pas forcément beaucoup fait l'année dernière. Par contre, il a un gros point d'interrogation. C'est son taux de retrait au bâton où là, il est largement au-dessus de la moyenne. Les Giants le savent, ça fait partie du package. C'est un bon défenseur. Par contre, bon, bah, il se fait retirer au bâton assez régulièrement. On est à 27,2% de taux de retrait au bâton. Ça fait quand même pas mal pour ce joueur. Mais la direction que prennent les Giants, au final, comme l'a dit effectivement le directeur des opérations baseball, on mise sur la jeunesse. Et l'accent, il est clair, il est mis sur le pitching et sur la partie défensive. Parce qu'il y a quelques saisons de ça, ils avaient fait une très bonne saison régulière. Et depuis, on sent qu'il y a ça diminue, les performances diminuent d'année en année, ils passent à côté de gros coups, ils font partir Rodon aussi du côté des Yankees, qu'ils avaient perdu leur as au final, parce que c'était vraiment lui qui était en devenir pour vraiment être dominant sur le monticule. Dans la rotation, ils ont quand même trois blessés majeurs qui ne seront pas là pour l'opening day. Tu parlais d'Alex Cobb, il en fait partie. Il y a Tristan Beck et Robbie Ray aussi, l'ancien lanceur des Blue Jays, qui sont tous les trois out. Ce qui fait que ça les laisse juste avec Logan Webb, Jordan Hicks, qui n'est pas normalement un partant, mais qui est normalement un lanceur de relève, mais qui, bah, par la force des choses, va se retrouver aussi dans la rotation. Keaton Wynn et Kyle Harrison. Là, on a quatre spots pour le moment, sans les blessés, parce qu'une fois qu'Alex Cobb et les autres vont revenir, là, ça va changer, mais il reste un spot, et tu l'as dit, et ça a été l'une des préoccupations pourtant assez claires des Giants pendant toute l'intersaison. On a besoin d'un autre lanceur dans cette rotation. Pourtant, avec ce que dit le président des opérations baseball, on a l'impression que
Mais...
c'est terminé, même s'il n'exclut pas de potentiellement faire venir quelqu'un. Ce quelqu'un, évidemment, c'est Blake Snell, on en parlera après. Mais pour toi, ils ont vraiment encore besoin d'amener quelqu'un, ou est-ce que là, maintenant, tout de suite, bon, bah, on est en mode saison, effectivement, et on commence l'opening day comme ça?
On est encore dans la période de négociation. Tout est possible. Oui, forcément, il va pas dire oui, on va aller chercher Blake Snell. Bon, forcément. Mais c'est sûr, et c'est sûr qu'ils sont toujours, on va dire, dans leur optique de pouvoir aller chercher, être compétitif, malgré le fait que ce soit une jeune équipe. Voilà, on est un compétiteur, on va toujours essayer d'aller gagner et de pouvoir faire cela. Maintenant, Blake Snell, si il est toujours présent, il est toujours là et il fait partie un peu des plans, il va pas, voilà, il va pas le dire. En revanche, c'est sûr que s'il y a une ouverture, s'il y a une possibilité, on est bientôt, voilà, c'est pas le milieu du spring training. Lui aussi, il va falloir qu'il commence à bouger pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et il peut y avoir des ouvertures. Et à un moment donné, il va peut-être dire à son agent, bon, écoute, c'est bon, là, laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'aller jouer. Donc ça peut se précipiter, on va dire. Voilà, dépêche-toi. Donc c'est peut-être le pari de dire, bon, bah, de toute façon, voilà, on s'en fiche, Blake Snell, ça ne fait pas partie. Peut-être on va faire une ouverture, aller sur le
On dit
truc,
pas non.
mais. Voilà. Mais par contre, oui, les Giants, c'est la dynastie des années 2000
Je
avec
pense que
Bruce
je...
Bochy qui ont gagné trois titres avec Buster Posey, Brandon Crawford. Crawford a été donc free agent et est parti dans un autre club. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on est sur autre chose. On essaie de tourner la page et de reconstruire autour de jeunes joueurs. À noter aussi la petite présence, ça c'est quand même assez rare, des deux frères jumeaux, les Rodgers, c'est assez incroyable, et les deux lanceurs qui sont dans la même équipe, des frères jumeaux qui sont dans la même équipe. Donc ça, je trouve ça phénoménal. Et je me suis trompé, pardon, tout à l'heure sur le lanceur partant, c'est pas Alex Webb que je voulais dire, c'est Logan Webb.
Logan.
Alex Cobb, mais Logan Webb, voilà,
Ouais.
c'est ça, ma mémoire, j'ai vérifié,
On
mais.
mélange les deux et on a un super as pour débuter
Ah,
la
c'est ça,
saison.
exactement. Logan Webb, voilà, pardon. Donc. Lui seul ne peut pas forcément faire la différence. On sait qu'il faut au minimum, deux lanceurs partants dominants pour pouvoir jouer les premiers rôles. Un seul ne suffit pas. Et aujourd'hui, il y en a un qui est Logan Webb et les deux, trois, quatre, cinq autres potentiels derrière, ils sont en devenir. Et la différence avec peut-être les autres managers de toute la Major League, c'est que un Bruce Bochy est capable lui de façonner des nouveaux lanceurs qui sortent de nulle part, pardon, ou des nouveaux joueurs ou frappeurs qu'il arrive à monter, je sais pas, c'est ça sa magie, c'est ça sa capacité à prendre quelqu'un de nulle part. Evan Carter, voilà, il est même pas commencé la saison en Triple A l'année dernière, et il termine une frappeur 3 ou 4 des Texas Rangers qui vont gagner la World Series. C'est de l'improbable. Donc, il manque peut-être aussi ce côté, voilà, managérial par rapport à une équipe. On te donne des ingrédients, bah vas-y, fais une bonne recette. Voilà, tout le monde, tous les managers ne sont pas capables de faire ça. Bruce Bochy en était capable quand il était aux Giants, il n'est plus là. Mais il faut aussi passer à autre chose et essayer de confectionner bah, une équipe qui peut aller chercher. En revanche, dans cette ligue et dans cette division, ça va être quand même relevé. Il y a les Braves, les Dodgers, les Padres. Ça va être très très compliqué avec une équipe qui est en rebuild de pouvoir aller chercher quelque chose. Mais bon, on a vu les D-backs l'année dernière,
On sait
incroyable.
pas.
Donc voilà,
On sait pas.
c'est ça,
Mais
exactement.
c'était exactement la question que j'allais te poser par la suite. Au sein de leur division, donc il y a les Dodgers, il y a les D-backs qui ne seront plus, enfin maintenant, n'auront plus le côté hey, on est une petite surprise, est-ce que ça va aller loin, etc. Non, ça c'est fini. Vous êtes allé en World Series maintenant, tout le monde sait que vous êtes bon. Bon, les A's, on les met de côté parce qu'ils finiront a priori dernier de toute la ligue, voire de leur division et voire même quasiment de la ligue. Est-ce qu'ils ont quand même la capacité d'aller chercher pour toi une place en wild card, sachant que les D-backs seront quand même très bien placés. Faudra compter sur les Phillies une nouvelle fois. Ça laisse grosso modo un spot et ça risque d'être compliqué.
Alors, mon côté pragmatique de joueur et de sportif me donne toujours envie de ne jamais faire de pronostic. Mais je sais que dans le journalisme sportif,
Mais faut
on se lance
se
toujours dans ce genre de choses. Donc, je le fais à regret, mais je vais donner mon point de vue quand même là-dessus. Même si ça n'engage que mon point de vue, n'est-ce
Bien
pas?
sûr,
Que les
oui.
critiques ne.
Important.
Voilà.
C'est pas la peine de
Voilà.
revenir dans 15 jours ou dans 3
Ouais.
mois
Oh,
pour
il
dire
avait dit,
Ah, vous
machin,
êtes trompé.
etc. Il est
Non, ça se
nul, c'est un
passera.
mauvais consultant. Bon. Non, mais sur le papier, si on compare, honnêtement, voilà, Braves, Dodgers, même les Padres qui commencent, voilà, ils ont fait quelques erreurs stratégiques, c'est peut-être un peu, ils se sont brûlés les ailes, mais maintenant, en disant, bah tiens, Kim, finalement, on a pris un shortstop qu'on paye 300 millions, bah, on s'est trompé, voilà, on te met en deuxième base, toi, tu viens de Corée. Tu exploses tout, tu as un bon truc, etc. Ben voilà, tu vas être le shortstop. Ils sont un peu plus avec Bob Melvin dans le momentum. L'an dernier, franchement, j'ai eu très très peur à chaque fois que ce Bob Melvin, il arrive à trouver la solution pour les Padres, parce qu'il s'en faut de peu avec la qualité des joueurs qu'ils ont. Donc rien que dans cette division, parce que il peut y avoir aussi le fait, comme il y a trois équipes qui sont au top, bah tu fais pas partie des wildcards aussi, parce que c'est tellement fort dans cette division que après tu les joues quand même plus dans cette division, donc à un moment donné tu n'arrives pas à aller chercher ce spot-là. Après, les Phillies, c'est la même chose, les Cubs, c'est bon aussi. Voilà, je les vois vraiment pas, on va dire, dans le top 6, je pense pas, à moins qu'il y ait voilà, jusqu'à fin août, hein, on est capable de pouvoir renforcer. Mais en général, ce qu'il se passe, c'est qu'on attend de voir s'il y a la mayonnaise qui prend avril, mai, juin. Juin, on voit, oh là là, il y a peut-être une opportunité. Ok, on va aller chercher. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément en manque d'argent, puisqu'à chaque fois, ils essaient d'être dans les gros coups. Donc, peut-être sur un malentendu, si ils font les 3 premiers mois avec un bon record, ils sont encore dans le coup, etc., de pouvoir faire des imports et éventuellement faire des trades. Après, ils n'ont pas non plus des top top players pour faire des super trades. Voilà, c'est pas non plus. Je vois pas comment ils pourraient renforcer comme ça avec les équipes là, les échanges. Donc, il faudrait aller taper dans le farm system. C'est pas non plus l'équipe aujourd'hui, les Giants, qui est reconnue pour avoir le meilleur farm system de Minor League non plus. Donc, voilà, je pense pas que ce soit l'année pour les Giants, mais bien évidemment, ça n'engage que moi.
Donc, si jamais c'est pas bon, vous saurez à qui vous en prendre. Hein.
Voilà, c'est ça. Bien évidemment,
Au mois de
ils vont
juin.
gagner les World Series cette année.
Après, c'est vrai que les blessures, enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'à un moment donné, qui aurait pu penser que, par exemple, l'année dernière, les Braves allaient s'effondrer aussi brutalement. Voilà, c'est le sport et heureusement parce que croyez-nous bien que si on savait ce qui se passait en avance, ni Chris ni moi serions en train de faire un podcast, on serait sans doute au bord d'une plage, tranquillou. Voilà, bref.
Juste pour terminer sur le
Vas-y.
pitching, donc si on va un peu plus dans le détail de la rotation, le starting pitcher, c'est moyen, enfin c'est moyen bon avec un super lanceur. Et après, sur les releveurs, si tu en as parlé tout à l'heure, Jordan Hicks, et c'est le mec qui lance quasiment le plus fort de toute la Major League, il a été relâché parce qu'il a un peu manque de contrôle. Si on arrive à le driver, etc., avec Camilo Doval, tu as quand même le setup man et le closer qui peuvent être pas loin d'être les meilleurs. C'est presque au-dessus pour moi, le 8 et 9, que ce que peuvent avoir les Dodgers sur cette partie-là. Donc
Ouais.
ils ont la fin, mais ils n'ont
Clairement,
pas
tu vois.
les
Le
starters.
milieu.
Voilà,
Ouais.
exactement.
Mais
Et le
en
milieu.
plus, et en plus, ils peuvent bénéficier du coup d'un infield et d'une défense qui va sans doute être meilleure aussi cette année. Donc si derrière, en plus, le run support est présent, Ouais, il y a les ingrédients pour faire des choses qui sont pas si mauvaises que ça chez les Giants. Mais encore, ce
Wait and
sont des...
see.
Voilà, c'est avec des si. Vous savez ce qu'on peut faire. D'ailleurs, en parlant de si, ces deux-là en ont beaucoup. C'est Blake Snell et Jordan Montgomery, parce qu'on parle maintenant des agents libres. Alors, il en reste encore beaucoup, hein, mais aujourd'hui, on a décidé de se focaliser sur ces deux-là parce que c'est quand même les deux gros qui restent, puisque Cody Bellinger reste et très, très bon coup réalisé par les Cubs de ce côté-là, de l'avoir gardé, Cody Bellinger. Du coup, il reste Blake Snell. Donc, le Cy Young de l'année dernière, le meilleur lanceur de l'année dernière, et Jordan Montgomery, qui a juste gagné les World Series avec les Rangers. Donc, on a genre juste deux super lanceurs qui sont encore sur le marché et qui, bon, ils sont tantôt envoyés chez les Yankees, tantôt chez les Giants pour le côté Blake Snell. Dernièrement, on parle. La liste semble s'être rétrécie pour Blake Snell, puisque Bob Nightingale, le journaliste américain, parle de deux équipes vraiment en particulier, avec un intérêt pour une troisième. C'est les Angels. J'avoue que quand j'ai lu Angels la première fois, ça m'a un peu surpris. Les Giants et les Phillies auraient manifesté de l'intérêt pour Blake Snell aussi. Alors, s'il va aux Phillies, ils vont avoir une rotation qui va être XXL. Tout juste, ça les ferait aller presque au niveau de la, peut-être juste au-dessus de la taxe de luxe. Donc, c'est une possibilité. Le point commun qu'on, est-ce que tu connais, Chris, le point commun entre Cody Bellinger et Blake Snell?
Malheureusement, oui.
Alors, quel est-il?
Ils ont le même agent qui
Ils
s'appelle
ont le même
Scott.
âge. Effectivement, ils ont le même agent qui s'appelle Scott Boras. Et qu'est-ce que Scott Boras vient faire là-dedans, me direz-vous? Eh ben, en fait, j'ai lu ça dans pas mal sur pas mal de papiers aux États-Unis. Les derniers contrats signés par les joueurs de Scott Boras comprennent une clause qui ferait un petit peu peur à pas mal d'équipes. C'est le fait de pouvoir rompre le contrat à chacune des années du contrat. Par exemple, Cody Bellinger a signé pour 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et sur les 3 premières années du contrat, il peut le rompre comme il veut. Donc ça, les franchises ne sont pas super, super à l'aise, surtout quand tu parles de Blake Snell, où tu as envie de le garder sur plusieurs années, surtout avec un contrat qui va être plutôt assez élevé, puisqu'on parle d'un contrat à 200 millions 200 millions de dollars quand même. Les Yankees étaient dans le lot, visiblement à cause de cette clause, ils y seraient plus. Bref, est-ce que, alors, c'est pas forcément les techniques de Scott Boras. Là, c'est voilà, il y a la petite blague avec Boras, mais on est le 4 mars, l'opening day c'est le 29, ils n'ont toujours pas de franchise. Enfin, c'est jouer à un jeu dangereux que de faire ça à ce moment-là de l'année.
Alors, si je ne me suis pas trop lâché sur les Giants, là, j'ai envie de me lâcher.
C'est parti.
J'ai envie de donner mon point de vue engagé.
Vas-y.
Et clairement, c'est la défaite pour moi de deux personnes. C'est de Rob Manfred, voilà, le commissionnaire. La convention collective a été re-signée il y a 2 ans maintenant, et non, l'année dernière,
L'année
pardon, l'année
dernière, l'année
dernière,
dernière.
avant la saison dernière, et tout de suite après, on a vu les catastrophes industrielles que ça a pu qui a pu y avoir, que ce soit, on parle des Padres sur les shortstop qu'ils ont signé sur 11 ans, on signe un shortstop Bogarts à 31 ans sur 11 ans. Non, mais l'aberration, je pense que tout le monde peut l'avoir à 42 ans. Et au bout de l'année suivante, il joue deuxième base. Voilà, pour qu'il soit shortstop. Bon, voilà. Ensuite, c'était quand même la convention collective. C'est à la fois donc la MLB, mais il y a les owners et les joueurs. Celui qui drivait la partie joueur, il y avait un certain Max Scherzer. Max Scherzer, suite à cette convention, a signé avec les Mets pour 40 millions à 40 ans. À un moment donné, arrêtez les mecs. Si tu veux pas que ça se passe, Tu viens de signer une nouvelle convention collective. Tu mets tes sur la table et puis tu dis, voilà ce que je veux pour la MLB. Maintenant, ça veut dire que Rob Manfred, il les a pas. Voilà, clairement, il était entrecoupé entre les deux. Il essayait de voir, de satisfaire les uns, de satisfaire les autres, machin, etc. Et au final, il nous embrouille avec l'histoire de des bases plus grandes, la pitch clock, etc. C'est ça. Ok, que tu aies changé ou pas cela, on va penser que lui, il a réussi cela. Mais la plus grosse défaite pour moi, c'est ça. C'est de ne pas avoir régulé ce marché qui peut créer des bulles incroyables. Pour le coup, au bout de la deuxième année, les Dodgers voient des failles et c'est mon équipe de cœur. Et ok, mais c'est incroyable. Et les contrats qu'ils ont rédigés, c'est presque de la triche à un moment donné. Tu te dis, mais bah non, parce que ça, c'est pas régulé en fait. Et Scott Boras est le number one pour pouvoir jouer avec tout cela. Et donc ça, c'était la petite aparté pour à la fois sur le commissionnaire et sur l'échec même des trois parties. Parce que j'ai parlé des joueurs, j'ai parlé du commissionnaire, j'ai parlé aussi des owners. Les owners, tu ne peux pas investir 11 ans sur des joueurs. Aujourd'hui, sur des lanceurs qui se pètent le bras au bout de 2 ans, 3 ans. Voilà. Tu ne peux pas investir sur des joueurs juste parce que le marché est fait qu'ils doivent re-signer leur deuxième contrat après 5-6 ans quand ils ont 30 ans. Et donc, eux, ils veulent faire sauter la banque. Et donc, ils en profitent. Ils jouent 1, 2, 3 saisons juste avant, à 30 ans. Paf, il faut sauter la banque. Et puis après, on ne les voit plus. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu régules, tu mets des contrats maximum à 3, 4 ans, 5 ans au grand maximum, parce que le sport de niveau, c'est de plus en plus demanding et que tu ne vas pas arriver. Qui va te garantir que dans 11 ans, tu puisses être encore ultra performant comme tu es aujourd'hui? Franchement, c'est impossible. Impossible. Donc, ça, c'est la première chose. Après, pour répondre à ta question sur Scott Boras, mais la question, c'était... Je me suis perdu dans les explications.
Voilà, bravo. C'est tellement virulent avec Manfred et compagnie. Ouais. Non, mais voilà. C'est très bien ce que tu as dit, parce que il y a une question qui me vient justement sur la convention collective et justement la partie agent libre. Là, c'était, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu aussi sur la... On parle d'un Blake Snell qui est Cy Young, qui a été meilleur lanceur pour la deuxième fois de sa carrière, qui là n'a pas d'équipe et qui potentiellement va signer, peut-être, en fait, on est en train d'enregistrer, peut-être que dans 4 heures, on va avoir la news qu'il a signé aux Giants ou ailleurs, mais potentiellement, il ne sera pas prêt pour l'opening day.
J'ai retrouvé, voilà, merci de m'avoir remis dans mon droit chemin, je me suis bifurqué, mais c'est ça le podcast, on a le temps de discuter, c'est bien, on est là, on est libre, magnifique. Mais effectivement, c'est exactement ça, et moi je pense à un lanceur, un top lanceur qui s'appelle Craig Kimbrel, qui a vécu cela. Et en fait, j'ai envie de dire pourquoi pas sur des frappeurs. Voilà, le frappeur, oui. Il n'a pas forcément besoin de sa routine. Il n'a pas besoin, il peut être pendant un mois moins bon, 2 mois moins bon, ce n'est pas trop grave. Mais le lanceur, en fait, les lanceurs, c'est comme si tu avais, une Bugatti Veyron dans ton garage et que tu la laisses pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 4 mois, etc. Et puis, tu vas faire une compétition de mécanique, parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est que le lanceur, c'est vraiment une mécanique huilée. Et c'est bien pour ça qu'ils viennent 2 semaines avant les frappeurs. Voilà. Et là, c'est même pas, ils viennent 2 semaines avant les frappeurs, ils arrivent 1 mois après tout le monde. Donc, Craig Kimbrel, si je reviens sur lui, il a commencé, donc il a fait une super saison, etc., machin. Il casse tout, free agent, il lance pas, il est pas là, il signe pas. Voilà, et ça a complètement flingué sa routine. Il a été moins performant sur l'année suivante. Et puis depuis, bam, il enchaîne les équipes alors qu'il était censé être le meilleur closer de sa génération. Donc pour les lanceurs, pour moi, c'est inconcevable. Et puis lanceur, tu as besoin de lancer, tu as besoin d'avoir des catchers. T'as besoin... Là, ils sont où? Ils font quoi? Ils s'entraînent tout seuls dans leur cage, avec leur coach, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, tu régules ça aussi. La saison se termine en octobre. Non, mais tu n'as pas ça. Le temps de discuter. Novembre, décembre, janvier, février. Tu n'as pas le temps pendant 4 mois de discussion.
C'est la seule ligue qui n'a pas de fenêtre dédiée pour la signature des agents libres pendant l'intersaison. C'est la seule.
Non, mais c'est incroyable. Et tu
et ce débat est revenu, et ce débat est venu sur la place publique, parce que effectivement, les autres années, il n'y avait pas forcément ça, parce que tu n'avais pas. Il y a encore quelques jours, il y avait Cody Bellinger qui était dedans. Donc, il y avait vraiment. On a eu passé une période où il y avait 4, 5, 6 très gros joueurs qui n'étaient pas encore signés. Et là, on en a encore deux. Donc, est-ce que la MLB a intérêt à mettre une fenêtre pour la signature des agents libres? Oui, bien entendu. Et en fait, le problème, là, par contre, vient. Les réticences viennent du syndicat des joueurs. Mené par Tony Clark, parce que ça limiterait le pouvoir des joueurs de pouvoir signer justement des gros contrats. Et ça a été l'une des stratégies qui a été mise en avant en disant, bah, en fait, sans date limite, bah, ok, on peut signer peut-être 10 jours avant l'opening day, mais par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est passé à la banque. Sauf non, que c'est bien beau d'être passé à la banque, mais derrière, si c'est pour commencer ta saison au mois de juin, parce qu'au final, tu n'es pas prêt et que premier truc, tu vas sortir, tu vas te blesser.
Bah... Non, alors au contraire, Bah non, parce que c'est les free agents, donc il n'a pas d'équipe. Ouais, j'allais dire, tu proposes, si tu étais dans une équipe et puis après, tu es passé par un trade, donc c'est free agent. Non, le free agent, il doit signer avant le spring training et puis basta. Voilà. Franchement, qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. Et puis s'ils ne signent pas, c'est complètement.
Et bien, il y a une autre fenêtre plus tard. Et puis
voilà, c'est ça.
Et puis voilà.
C'est ça, exactement. Donc après, c'est du business et c'est les accords qui peuvent être entre eux. Et on ne sait pas, on ne connaît pas tout, mais là, c'est dénué de toute logique sportive. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut comprendre que c'est drivé par des hommes d'affaires, mais malheureusement, au bout, celui qui lance la balle, c'est quand même un être humain. Et si l'être humain, il a beau mettre tout de côté pour comprendre ces choses-là, voilà, il y a quand même des limites à ces méthodes-là. L'émotion, quand tu sais que tu es tradé et que c'est les journalistes qui disent bah tiens, t'as été tradé, et ils savent même pas en fait qu'ils sont changés ou ce genre de choses. Ou alors, je me souviens de Ichiro qui était chez les Mariners, qui part dans l'avion et on lui dit bah quand t'arrives à l'avion, en fait, tu vas jouer avec les Yankees parce qu'ils jouaient les Mariners contre les Yankees. C'est complètement aberrant. Ouais. Ça, c'est des trucs.
Des cas
en tant
comme
que français,
ça, il y en a
tellement. Voilà, on ne comprend pas forcément ce genre de choses. Donc, c'est bon, le libre-échange et c'est le folklore un peu américain. Mais à un moment donné, quand même, voilà, il y a un minimum de respect sur ce genre de choses. Enfin, c'est bon. Voilà, mon
le
point
marché.
De vue.
Oui, ouais, mais la loi de l'offre et de la demande poussée à son extrême. L'autre agent libre, c'est Jordan Montgomery qui a gagné les World Series avec les Rangers, qui a été très précieux pendant la post-season, alors qu'il est arrivé venant des Yankees après avoir fait des saisons plus que moyennes. Et ben 21 départs, une moyenne de points, une ERA de 3,20, 166 retraits au bâton sur toute la saison. Les Rangers ne l'ont pas gardé et il serait lié à Boston. Là aussi, j'étais un peu... Voilà, le lanceur vient de gagner les World Series. On peut s'attendre à ce que des équipes, et je pensais franchement que les Yankees allaient être sur le coup pour essayer de récupérer celui qu'ils avaient perdu. Au final, pas du tout. Ce seraient les Red Sox qui sont en manque. Rafael Devers l'avait... C'était même plus sous-entendu, tellement c'était gros comme une maison pendant le spring training, en disant « Non mais c'est bon, tout le monde sait ce dont on a besoin ». Effectivement, c'était ça. On parle d'un contrat de 7 ans et 172 millions de dollars. En gros, il voudrait un contrat qui soit supérieur ou égal à celui de Aaron Nola, pour donner une comparaison. Montgomery à Boston, qu'est-ce que ça t'inspirerait?
Après, je pense que ça peut être, si on parlait de Snell tout à l'heure, il a quand même eu des très bonnes saisons par le passé. Il a toujours été, on va dire, en top de sa division. Il était toujours assez bon. L'année dernière, comme par hasard, juste avant son année de free agent, il est méga bon. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire un autre débat. Mais Jordan Montgomery, c'est, on va dire, la première saison où il explose. Donc, ça tombe pareil aussi, pas comme par hasard sur
C'est
sa
ça.
fin de contrat, de long contrat, mais juste avant une signature de free agency. Donc, ça pousse quand même, voilà, les joueurs à performer, mais c'est pas non plus une valeur sûre sur du long terme. Donc ça, c'est pareil, comment tu es owner et tu peux te dire, bah, tiens, le mec a fait une très bonne saison sous l'égide du meilleur manager de la planète, Bruce Bochy. Voilà. Bon, ça, c'est complètement subjectif ce que je dis, hein, sur
Subjectif.
Bruce
Oh.
Bochy. Je vous
Bah,
le dis.
on parle quand même de l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire, un nombre de bagues,
Non, mais il a
et il
une
est encore quelques doigts,
particularité,
tu
ouais.
vois.
Il a une particularité d'aller chercher les gens et de les sublimer. Ce que les Dodgers n'arrivent pas. Et au contraire, je pense que cette pression qu'il peut y avoir aux Yankees peut même mettre un peu dans le formol les joueurs parce que c'est trop puissant. On avait eu quelques échanges et quelques moments à l'époque avec Russell Martin, qui était donc un ami d'un joueur québécois qui avait évolué aux Huskies, donc Hugh Appleby. C'était son meilleur ami d'enfance, donc on avait chillé un peu avec lui quand il était aux Dodgers. Et il disait, bah, c'est clair que quand tu es aux Yankees, c'est totalement différent. Tu as une pression phénoménale, etc. etc. Donc c'est peut-être ça qui lui a fait ça. Et aux Rangers, voilà, il était un peu libre, il s'est libéré. Donc de là à dire, tiens, tu signes pour 7 ans et avec une comparaison en termes financiers à Aaron Nola, je suis désolé, mais il est quand même au-dessus. Largement par rapport à ce qu'il a pu
D'accord.
faire par le passé et comment il est. Donc, mais c'est il abuse, voilà, c'est tout. Scott Boras
Il
abuse, il n'aura
essaye.
pas son contrat. Il essaye,
Il essaye.
mais quitte à flinguer, parce que des lanceurs gauchers comme ça de qualité, normalement, ça devrait partir comme du petit pain. Mais voilà, à un moment donné, à force voilà, de tester, bah, tu peux te retrouver comme le Coréa.
Ça.
T'avais des contrats potentiels à 300 millions. Je
Et
suis
du coup, t'as plus rien.
il est comparé à Dior ou à une marque de luxe. Et au final, il est retourné aux Twins. Alors, il est très bon, hein, mais c'était pas la promesse. Voilà, c'est le jeu. J'ai envie de dire,
La
c'est le jeu.
promesse
Et
initiale.
c'est au honneur de dire, bah, écoute, c'est bon, arrête tes conneries maintenant. On n'accepte pas et on ne signe pas. Donc après, tant que les gens signent, c'est la loi et le marché, hein, comme tu as
Bah,
dit.
c'est ça.
Tant que ça part, c'est comme l'immobilier à Paris.
Exactement. Vu que ça se
Tant que les
vend,
gens
bah,
achètent,
du coup.
pourquoi on ferait baisser? Voilà, exactement.
Exactement, exactement. Lui aussi était. Alors, il n'était pas agent libre. Il était sur le départ quand il était à Milwaukee. C'est Corbin Burnes. On parle. Pour situer Corbin Burnes, j'ai trouvé des stats. Heureusement que j'étais assis parce que je pensais vraiment pas qu'il. Je savais qu'il était très bon. Mais j'avais jamais vu. Et à quel point, effectivement, il l'était. Depuis 2020, parmi tous les lanceurs qualifiés, il est deuxième en WAR, donc les Win Above Replacement. Deuxième. Il est cinquième en ERA, avec 2,86. Il est cinquième en inning lancé, 622 un tiers. Et il est septième en retrait par 9 manches à 11,06. Il a remporté le Cy Young en 2021. Et là, il arrive dans l'équipe peut-être la plus. L'une des équipes les plus bankable du moment, les Orioles, qui restent sur une saison à 101 victoires, un peu ternie, j'avoue, par une élimination dès le premier tour des séries éliminatoires. Équipe très jeune, avec un farm system. Tout à l'heure, on parlait de celui des Giants, qui n'était pas forcément le meilleur. Là, on a peut-être la meilleure ferme, le meilleur élevage de prospects qui existe. Est-ce que ce n'est pas l'élément qui leur a manqué l'année dernière justement pour pouvoir aller plus loin? Et maintenant qu'ils l'ont, est-ce que les Orioles sont repartis pour la même saison?
Alors, les Orioles font peur parce que c'est à la fois très stratégique. Mais c'est pas tout de miser tout sur la jeunesse. Comment tu fais pour sortir à chaque fois des top players comme ils le font? Parce que Adley Rutschman,
Jackson
l'outfielder,
Holiday.
Ouais, là, c'est Jackson Holiday. Bon, lui, c'est incroyable, encore plus. Il est déjà là dans les. Et ouais, il fait partie des meubles déjà, alors
C'est ça.
que l'année dernière, il était encore, voilà, encore chez papa-maman. Donc, ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est, on va dire, voilà, l'astéroïde qui va passer. Mais tous les autres joueurs, quand ils arrivent, c'est du top player. C'est incroyable. Et en 2-3 ans, ils arrivent à les monter au plus haut niveau. Donc ça c'est fait, on va dire. Maintenant, ils ont vendu. Donc les anciens propriétaires ont vendu, à savoir que le nouveau pool de propriétaires avec le owner principal et le owner le plus riche de toute la MLB, un multimilliardaire, qu'ils ont rajouté dans le pool un certain Cal Ripken. Donc on joue aussi sur
Pas très connu, lui.
l'histoire, voilà, sur l'histoire, la légende des Orioles. J'ai envie de dire, c'est presque le coup parfait. Déjà, sur cette partie-là, et puis de rajouter maintenant, une fois que c'est consolidé avec le farm system, avec ces joueurs qui montent, etc., eh bien, au lieu de faire comme peut faire, je sais pas moi, on pense aux Marlins, qui avaient des top
Par
players et
exemple.
puis ils les ont tous revendus. Voilà. On pense à d'autres franchises qui ont fait ça, mais ça me fait penser aux Braves, ça me fait penser aux Houston Astros.
Tout à fait.
2 ans avant, ils avaient un des meilleurs farm systems, ils sont arrivés. Et puis, ça fait 5 ans qu'ils sont tout le temps en finale, en finale de conférence, où ils gagnent les World Series. Ils sont toujours là parce qu'ils avaient créé leur noyau de 5-6 joueurs top players, et puis ils ont fait des ajouts. Justin Verlander, etc. Et ben pour moi, c'est cela. C'est Corbin Burns, peut-être le Justin Verlander pour les Astros, car effectivement, aux Brewers, comme tu le dis, tu te dis, bah tiens, je savais que c'était un bon lanceur, mais tu mets Corbin Burns aux Yankees avec des stats comme ça, mais il signe des contrats encore plus importants que les autres. Donc, il n'avait pas la lumière qu'il devait avoir. Donc là, normalement, avec ce qui va se passer, ça devrait être très, très, très difficile d'aller la chercher. Et l'an dernier, ils ont terminé premier, sans Corbin Burns. Cette année, ça risque d'être, je pense, l'année de la confirmation, en tout cas dans leur ligue. Et ils vont aussi dominer cette ligue, sur ce que je vois, encore une fois. Hein. On se fait des projections, mais c'est le
Non, non,
jeu.
mais et je le confirme. Donc, vous aurez deux personnes à blâmer si ce n'est pas le cas.
Voilà, c'est ça. Et grosso modo, l'apport de ce top player, je le dis, je le répète à chaque fois quasiment que je commande sur Bein, ou là, je vais le dire à chaque fois, name of the game is pitching. Tu as deux lanceurs dominants, tu peux gagner les World Series. Tu as deux lanceurs dominants, tu risques d'être dominant. Quand je dis dominant, c'est-à-dire que tu le mets sur la butte, tu peux gagner. Voilà. Il peut lancer 9 manches, 7 manches à 0 point, et puis à chaque match qu'il lance, tu veux voilà, un Gerrit Cole,
C'est ça.
Clayton Kershaw, un peu moins ces dernières saisons, mais globalement, voilà, tu étais quasiment sûr de pouvoir gagner à chaque fois. Donc, et puis Corbin Burns, c'est ça. Tu le mets sur la butte, ou Justin Verlander, tu le mets sur la butte, tu sais que tu peux gagner contre n'importe qui. Donc si t'en as deux, voilà, tu peux aller chercher. Ils en ont au moins un de ce niveau-là, et les autres sont peut-être en devenir, en tous les cas. C'est hyper, hyper malin de leur part.
Parce que c'est vrai, tu l'as dit, l'année dernière, ils finissent dans premier de l'American League Est, donc devant les Blue Jays, les Rays, les Yankees, bon, et les Red Sox. Là, cette année, ils n'avaient pas Corbin Burns l'année dernière. Donc là, en plus d'une rotation qui était déjà eh ben, plutôt bonne, ils ajoutent, c'est vraiment le petit saupoudrage en plus, tu vois, sur le gâteau qui était déjà plutôt appétissant. Mais alors là, il l'est encore plus. Les Yankees ont, enfin, tu peux lire quand tu regardes si tu lis le New York Post, tu vois quasiment que ça. Les Yankees ont peur des Orioles. Pour eux, leur menace dans cette division, c'est pas les Blue Jays, c'est pas les Rays, c'est pas les Red Sox, c'est les Orioles. Bon, si un jour je pensais avoir dire ça, que les Orioles étaient une menace, là, j'aurais pas cru. Mais effectivement, il y a une trajectoire dans cette équipe qui est qui est vraiment impressionnante, et les comparaisons que tu as faites, elles sont tout à fait là. La projection à l'avenir, quand il faudra re-signer, etc., on verra. les véritables intentions du nouveau, des nouveaux propriétaires, si on dans une volonté affichée de dépenses entre guillemets, donc vraiment d'essayer de se rapprocher de la taxe de luxe, d'essayer de monter des choses, etc. S'il n'y a toujours pas de régulation là-dessus, on verra à ce moment-là. Mais là, à court terme, parce que pour Corbin Burns, en fait, c'est aussi ça, c'est un pari à court terme. On a fait, ça a été un échange. Ils ont envoyé quelques prospects, quelques bons prospects, puisque le farming system est bon. Mais ils sont pas sûrs de l'avoir après 2024. Et clairement, si Burns fait encore une très bonne saison, même si l'année dernière, on était un poil en dessous de ses standards depuis 2020-2021, ça va coûter cher l'année prochaine. Et clairement, les Orioles ne seront pas tout seuls à vouloir garder Corbin Burns. Est-ce que c'est un pari risqué quand même pour eux de faire d'avoir sacrifié entre guillemets quelques jeunes prospects pour potentiellement juste un an d'un lanceur dominant?
Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'être en play-off ou de gagner. Voilà. Ouais. Ils ont réussi avec leur pari, avec la jeunesse, de constituer une équipe capable d'être numéro un. Ok. Maintenant, quand tu veux aller chercher en mode tournoi les playoffs, eh bien, il faut que tu aies de la bouteille. Tu es obligé, voilà, dans n'importe quel sport, tu parles de foot, tu parles de rugby, tu parles de... Voilà, la jeunesse peut et doit soulever les entre guillemets les vieux et les mettre un peu au placard et les pousser pour qu'ils puissent toujours garder ce principe-là de compétitivité, etc. Et c'est normal de mettre en concurrence ces deux générations, mais pour gagner, tu es obligé d'avoir des vieux. Tu peux, pour moi, à part sur un miracle et un momentum incroyable, tu ne peux pas gagner quand tu n'as que des jeunes. Ouais. Donc, tu es obligé, sur ce mode, surtout sur ce mode tournoi, une fois que tu es en mode play-off, tu es obligé d'avoir des vieux briscards, tu es obligé d'avoir de... Après, je ne connais pas le basket, mais c'est les Lakers qui ont gagné le tournament. Le in-season tournament, ouais. Ouais. Alors qu'ils font une saison pourrave, non? C'est moyen.
C'est moyen,
ouais. C'est moyen. Ils sont en mode play-off, les mecs, ils élèvent leur niveau de jeu, machin, ils démontent tout le monde. Ben ça, et voilà. Si on fait un comparatif, c'est exactement ça. Maintenant, la saison est longue, 162 matchs, t'es obligé d'avoir des jeunes, t'es obligé d'avoir de la rotation, t'es obligé d'avoir plein de joueurs. Mais une fois que tu arrives avec ce momentum, et c'est ce qui peut-être aussi a manqué aux Braves, c'est qu'ils ont des très très bons joueurs, mais ils sont tous à 25, 24, oui, 25 ans.
Encore jeunes.
Donc, d'avoir des joueurs plus expérimentés, c'est nécessaire. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et si je ne dis pas de bêtises, je peux me tromper, mais je crois que la signature de Corbin Burns arrive après la signature de la vente. C'est-à-dire que c'est leur premier achat, une fois qu'ils ont vendu.
Oui.
Donc, ça montre quand même, OK,
une volonté,
on veut aller plus haut, on veut aller plus loin. Et par contre, et là où ils sont avec un joujou, si on parle de joujou et qu'on est milliardaire, Cohen qui a racheté les Mets, bah il a racheté, on va dire, des œuvres d'art très chères, mais il n'y avait pas les petites pépites, les petites graines qui sont en devenir, etc. Et les petites les œuvres d'art sont plus difficiles à entretenir que les petites pépites où ça coûte moins cher. Deux scénarios différents. Maintenant, tu as consolidé quelque chose de fort. Tu rajoutes et tu mets un peu de nouveaux ingrédients qui peuvent assaisonner, épicer et relever ton équipe. Je trouve que c'est très, très dangereux à la fois pour les Yankees, mais à la fois pour toute...
Pour toute l'American League. Ah oui.
Même pour les
World Series. Même la Major League, ouais. Ah oui, complètement. Ils font partie clairement des favoris cette saison, les petits oiseaux de Baltimore. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Le petit plus hors trois des trois sujets qu'on a fait aujourd'hui.
Bon, je vais essayer de pas parler des Dodgers et de Shohei Ohtani à chaque saison, chaque semaine.
On m'a fait le reproche déjà sur un post sur les réseaux sociaux en me disant non mais c'est bon, on va pas nous servir du Ohtani machin. Oui, c'est bon, j'avoue,
mais comment,
c'était son premier coup sûr, mais bon,
on en parle à la fin, c'est ceux qui seront jusqu'au bout du podcast, ils pourront l'écouter. Mais comment tu peux passer à travers? Le gars, il arrive,
3 sur 3
premier
hier soir.
match, 3 sur 3 hier soir. Voilà. Mais premier match, tout le monde le regarde, tout le monde dit, tiens, Otani va jouer, va jouer, va jouer. Ouais. Allez, premier swing, dans le vent, dans les chaussettes. Allez, tu te dis, bof, finalement, ouais. Il est nul. Deuxième, grand double play. Troisième, après, oh, bon. Techniquement, il faut analyser la frappe. Parce que, bon, tout le monde a vu que c'était un home run, ok. Mais techniquement, le gars, sur son premier at-bat, il prend des swings et des whiffs dans tous les sens. Il est totalement à la rue. Tu te dis, bon, il a encore besoin d'ajustement.
C'est ça.
Le gars, il a besoin de 2 at-bats pour s'ajuster et faire une frappe stratosphérique incroyablement difficile à faire. C'est-à-dire que la balle qui frappe, ok, le lanceur, ce n'est pas un super lanceur, mais peu importe. Essayer de frapper une balle à 92 qui est middle in. Frapper à l'opposé, donc tu fais un in and out, sauf que le frappe, tu mets tes mains à l'intérieur de ton corps et tu vas la pousser à l'opposé pour frapper un home run à l'opposé alors que tu frappes même pas la balle correctement sur ton sweet spot de la batte. Techniquement, c'est juste quasiment improbable. C'est-à-dire que moi, si je fais ça, bon, voilà, même n'importe quel joueur aujourd'hui,
on y laisse nos
épaules. Hors lui. Tu fais ce swing là, machin, la balle elle va pop-up sur le shortstop. Voilà. Et lui, il arrive, je ne sais pas comment, parce que c'est un don, à frapper la balle au champ opposé en home run. Et puis tout le monde s'attend à ça, il le fait, et puis finalement tu te dis, mais voilà. Et hier, deuxième fois, parce qu'en fait, il a que, je crois, il va jouer 40 at-bat, je crois, comme ça.
Il veut en jouer 50 à peu près.
Le mec, il arrive hier 3 pour 3. Ouais. Il a 6 at-bat.
Dont un triple.
4 pour 6.
Dont un triple.
Voilà, le mec.
En plus, il a la vitesse, tout. Enfin, il y avait tout.
Au bon endroit, au bon moment, à la bonne période. Voilà, il est right in the, in the flow, right in the zone, right in the.
Il est right tout court. Là, c'est...
Mais c'est. Voilà, comment tu veux ne pas en parler ? Voilà, je me suis dit, je ne vais pas en parler, mais là, tu me demandes, tu me tends la perche à la fin.
Mais oui.
Voilà, je suis désolé pour ceux qui vont écouter jusqu'à la fin. Les Dodgers et Otani. On va essayer de ne pas en parler toutes les semaines, mais.
Si on n'en profite pas maintenant, dans 10 ans, quand il va être au crépuscule de sa carrière, on va être là, oh là là, rendez-vous compte, il reste peut-être qu'une année d'Otani. C'était vraiment. Bah alors. Vous vouliez pas qu'on en parle pendant qu'il était à son prime, maintenant il faut qu'on en parle parce que c'est fini. Donc non, on en parle pendant son prime. Et c'est en parlant de grosses frappes, est-ce que tu as vu celle de Eli De La Cruz, le joueur des Reds, qui a balancé un home run à 470 pieds. Le truc, il est sorti, je pense qu'il est encore sur l'autoroute, tellement il a une puissance lui aussi. L'année dernière, il était arrivé dans la ligue, ça avait été un extraterrestre, le mec va vite, frappe fort. Incroyable, et là c'est reparti pour un tour. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui aussi cette année chez les Reds. Ça
donc 472 pieds pour faire la conversion, c'est 144 mètres, c'est à dire que le gars il a frappé un terrain de foot plus la moitié d'un autre terrain de foot.
Franchement, allez, un jour, si vous voyez pas les distances que ça peut faire, allez sur un terrain de baseball, regardez à quel point c'est loin. Parce que sur le coup, oh, ça va, 140 mètres, ça va, ouais, non. Non, vraiment. Non, c'est vraiment très, 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 très loin.
On a la chance, je pense, de vivre une période assez intéressante et avec beaucoup, beaucoup de talent.
Ouais.
Donc, avec beaucoup de latinos, avec énormément de potentiel. Les Japonais qui arrivent, les Américains qui sont toujours présents, qui vont certainement prendre un peu de choc dans leur ego en disant « les meilleurs joueurs, ce n'est pas nous, les Américains, donc ils vont revenir ». Donc, on a la chance et je pense que quand les tennismans avaient un Roger Federer et un Nadal, un Djokovic, voilà, nous au baseball, on n'a pas eu encore ce truc-là où au basket, tu avais LeBron, tu as Kobe Bryant, tu as Michael Jordan. Et bien, aujourd'hui, le baseball a Shohei Ohtani et il transperce en fait, ça transperce son sport et il va aller au-delà de son sport, quoi. Je veux juste qu'il puisse être physiquement en bonne santé, qu'il puisse également lancer et frapper en même temps. Ouais. Et là, ce sera son challenge de carrière sportive.
Ah bah, clairement. Donc vivement 2025. On se donnera rendez-vous en 2025 pour voir, on espère, le voir aussi sur le monticule. Pour que tout le monde prenne la vraie. Les messages qu'on reçoit, c'est. En fait, je vois qui est Shohei Ohtani, mais je n'arrive pas à me rendre compte à quel point. Tout le monde dit qu'il est bon, mais je ne me rends pas compte à quel point. Et en fait, tu commences à faire le détail, tu lui dis, bah voilà, c'est du jamais vu depuis plus de 100 ans, etc. Une vidéo, les gens regardent, enfin, ok, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Je
C'est
vois
ça.
qui c'est bon, c'est ancré dans la tête. Shohei Ohtani, c'est un phénomène. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer. Ça sera sur Shohei Ohtani. Finalement, ce ne sera pas sur Corbin Burns. Mais merci encore une fois, Chris, d'avoir été parmi nous pour cet épisode numéro 2 du podcast First Pitch que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon Music et tout ça, tout ça. Et c'est, petite surprise, c'est que le premier épisode de la semaine. On laisse la place, Chris et moi, on va laisser la place à l'autre duo, Nicolas et Jérémy, qui vous ont fait des merveilleuses previews depuis déjà plus de 15 jours. Grosse preview de la saison, et ce sera disponible, je pense, jeudi, mercredi ou jeudi, à voir par rapport à leur date d'enregistrement, mais je pense que ce sera dans ces eaux-là. Donc, ce sera à ne pas rater. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Chris, et puis, écoute. Profite bien. Est-ce que tu. Ouais, bah non, j'allais te demander si tu allais être aux commentaires des matchs du sprint training, mais ils sont tous en VO. Donc ça ne sert à rien.
Non, par contre, ça a été annoncé par
Benjamin a
Benjamin, donc on
annoncé.
peut en parler.
Il y a trois matchs.
Il y
Je
a
me
les
remets
matchs
dessus.
des Seoul Series qui seront commentés
Tout à
en
fait.
VF. Donc, c'est les premiers matchs de la saison officielle qui verra donc les Padres contre les Dodgers.
Dodgers.
Le premier match sera commenté par François Ney, notre ace à nous.
Notre ace.
Voilà, c'est notre ace, je l'appelle
C'est ça.
l'ace. Et moi, je ferai le deuxième match, donc voilà, avec un énorme plaisir de revenir, surtout avec ces séries en Corée, avec certainement un début de rivalité
Ah oui.
japonais-coréenne, voilà,
Effectivement.
Haosun Kim contre Yamamoto,
Et je vais au tennis.
voilà, qui peuvent être là-bas. Voilà, je pense que
C'est ça.
ça va être grandiose. Et les matchs entre le Japon et la Corée sont toujours d'une intensité incroyable. Et pour le coup, quand nous, Français, on a l'habitude de voir l'ambiance des stades, donc aux États-Unis, sur le baseball, on se dit, ouais, c'est un peu ennuyeux, etc. Il faut savoir que au Japon, en Corée, c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut avoir en termes de supporters, pour le foot. Autant c'est aseptisé aux États-Unis, on y va pour manger des burgers, autant en Corée et au Japon, ça tape toute la partie pendant 4 heures, ça fait un bruit. Ils avaient
Ouais.
comparé le bruit du Tokyo Dome à l'époque, c'était le bruit d'un décollage d'avion. Ils sont énormes, ils supportent
Ah
tout le
ouais.
match, tout le match, tout le match, et l'ambiance, c'est comme si c'était des World Series x2 à chaque fois au niveau de l'ambiance. Donc ce sera certainement à regarder, et il va y avoir incroyablement voilà, une ambiance absolument folle, quoi.
On a hâte de vous retrouver tous aux commentaires sur les antennes de beIN Sport pour cette nouvelle saison 2024. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, Chris et moi, pour vous proposer un nouvel épisode de First Pitch, le podcast MLB de TFA. Salut, salut.
See ya.